Chapitre 31. La mer de Galilée. Je ne comprendrai jamais comment on peut devenir médecin, pensait le capitaine Laplace. Ou croque-mort. Quelles tâches immondes ils doivent accomplir.
Alors, avez-vous trouvé quelque chose ?
Non, capitaine. Évidemment, je n'ai pas le matériel voulu. Il y a des implants qu'on ne peut détecter qu'au microscope, du moins, à ce qu'on m'a dit. Mais ils ne pourraient être que de très courte portée.
Peut-être vers un émetteur relais quelque part à bord. Floyd a suggéré que nous fassions une perquisition. Vous avez relevé ces empreintes ou des détails qui permettraient de l'identifier ?
Oui. Quand nous contacterons Ganymède, nous les leur transmettrons ainsi que ses papiers. Mais je doute que nous sachions un jour qui était Rose ou pour qui elle travaillait.
Et dans quel but ?
Elle a au moins manifesté un sentiment humain, murmura Laplace, songeur. Quand Chang a tiré le levier avortement, elle a dû comprendre qu'elle avait échoué. Elle aurait pu le tuer à ce moment-là au lieu de le laisser se poser.
Grand bien nous fasse.
Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand Jenkins et moi avons fait glisser le cadavre par le vide ordure, dit le médecin en réprimant mal une grimace de dégoût.
Vous aviez raison, bien sûr, c'était la seule chose à faire. Enfin, bref, nous ne nous sommes pas donné la peine de le lester. Il a flotté pendant quelques minutes. Nous l'avons observé pour voir s'il s'écarterait du vaisseau. Et alors ?
Le médecin semblait avoir du mal à trouver ses mots.
Et alors quoi ?
Quelque chose est sorti de l'eau. On aurait dit un bec de perroquet, mais 100 fois plus gros. Il a saisi Rose d'un claquement de bec et a disparu. Nous avons ici de la compagnie, et impressionnante. Même si nous pouvions respirer à l'extérieur, je ne recommanderais pas la baignade.
Passerait la capitaine, intervint l'officier de quart. Une grande agitation dans l'eau. Caméra 3, je vais vous donner une image.
C'est ce que j'ai vu !
S'écria le médecin. Il se sentit soudain glacé par une pensée terrifiante. « J'espère qu'il ne revient pas pour un deuxième service. » Brusquement, une énorme masse rompit la surface de l'océan dans un bond prodigieux. Pendant un instant, le monstre resta suspendu entre ciel et eau. Le familier est souvent aussi choquant que l'inconnu quand il n'est pas à sa place. Le capitaine et le médecin s'exclamèrent à l'unisson
« Mais c'est un requin !»
Ils eurent tout juste le temps de noter quelques différences, en plus de ce bec de perroquet incroyable, avant que le géant retombe dans la mer. Il avait une paire de nageoires supplémentaires et ne semblait pas posséder de branchies. Il n'avait pas d'yeux non plus, mais de chaque côté du bec, de curieuses protubérances qui pouvaient être des organes de sens.
« Évolution convergente, » reprit le médecin. « Même problème, même solution, sur n'importe quelle planète. Voyez la Terre. » Les requins, les dauphins, les ichthyosaures. Tous les prédateurs océaniques sont formés sur le même modèle. Mais ce bec me surprend tout de même.
Que fait-il maintenant ? Le monstre remontait à la surface, mais très lentement, comme si ce bond gigantesque l'avait épuisé. Il paraissait même avoir des ennuis. Souffrir. Sa queue battait l'eau sans qu'il tente de se déplacer dans une direction quelconque. Soudain, il vomit son dernier repas, se retourna le ventre en l'air et flotta sans vie au gré des vagues.
« Mon Dieu !»
murmura le capitaine avec un dégoût évident. « Je crois savoir ce qui s'est passé. »«
Biochimie totalement étrangère, »
dit le médecin, lui-même vaguement écœuré par ce spectacle.
« Rose a fait une victime, après tout. »
La mer de Galilée avait été ainsi nommée, naturellement, en l'honneur de l'homme qui avait découvert Europe et qui portait lui-même le nom d'une mer bien plus petite sur un autre monde. C'était une très jeune mer, moins de 50 ans, et par conséquent, elle pouvait être très turbulente. Bien que l'atmosphère d'Europe fût encore trop pauvre pour engendrer de véritables tempêtes, un vent régulier soufflait des terres environnantes vers la zone tropicale, au point où Lucifer était stationnaire dans le ciel. Là, dans ce plein midi perpétuel, l'eau ne cessait de bouillonner, mais à une température rarement assez chaude pour faire une bonne tasse de thé. Heureusement, cette région de turbulence était à 1000 km. Galaxy était descendue dans un secteur relativement calme, à moins de 100 km de la Terre la plus proche. À sa vitesse de pointe, le vaisseau aurait couvert cette distance en une fraction de seconde. Mais pour le moment, tandis qu'il dérivait sous les nuages bas du ciel éternellement couvert d'Europe, la côte paraissait aussi inaccessible que le plus lointain quasar. Pour tout aggraver, s'il était possible, le vent de terre incessant le repoussait vers le large. Et même s'il parvenait à s'amarrer sur une plage vierge de ce nouveau monde, sa situation ne serait pas améliorée pour autant. Elle serait tout de même plus confortable. Les vaisseaux spatiaux, tout en étant remarquablement étanches, sont rarement capables de tenir la mer. Galaxy flottait en position verticale, avec des oscillations légères mais bien désagréables. La moitié de l'équipage était déjà malade. Le premier acte du capitaine Laplace, après avoir pris connaissance de tous les rapports d'avarie, avait été de faire appel à quiconque avait une expérience des bateaux, quels qu'ils fussent. Il lui paraissait raisonnable de supposer que sur 30 mécaniciens de l'astronautique et savants, il y avait quelques amateurs de navigation. Il trouva immédiatement 5 plaisanciers et même un marin professionnel, le commissaire Frank Lee, qui avait débuté sur les lignes maritimes Tsung avant d'être muté dans l'espace. Les commissaires étaient sans doute plus accoutumés aux machines comptables, dans le cas de Frank Lee, un boulier d'ivoire vieux de 200 ans, qu'aux instruments de navigation, mais ils devaient quand même avoir des notions suffisantes dans ce domaine. Lee n'avait jamais eu l'occasion de mettre à l'épreuve ses talents de navigateur et maintenant, à 1 million de kilomètres de la mer de Chine méridionale, son heure était venue.
« Nous devrions inonder les réservoirs de propulsifs, » dit-il au capitaine. « Comme ça, nous serons plus bas sur l'eau et nous ne roulerons pas autant. »
Cela paraissait stupide de faire pénétrer encore plus d'eau dans le vaisseau et le capitaine hésita. « Et si nous nous échouons ?» Personne ne posa la question évidente « qu'est-ce que ça changera ?» Sans aucune concertation, tous pensaient qu'il vaudrait mieux être sur de la terre ferme, si on pouvait atteindre une côte.
« Nous pourrons toujours évacuer l'eau. D'ailleurs, nous devrons le faire en abordant la côte pour mettre le vaisseau à l'horizontale. Grâce à Dieu, nous avons suffisamment d'énergie. »
Lee laissa sa phrase en suspens, mais tout le monde savait à quoi il pensait. Sans le réacteur auxiliaire qui alimentait les systèmes de survie, ils seraient tous morts en quelques heures. Pour le moment, sauf panne, le vaisseau pouvait les faire vivre indéfiniment. À la fin, naturellement, ils mourraient d'inanition. Ils venaient d'avoir la preuve dramatique que pêcher sa nourriture dans les mers d'Europe pourrait être fatal à leurs organismes terrestres. Ils avaient au moins pu entrer en contact avec Ganymède, donc toute la race humaine était au courant de leur drame. Les plus grands cerveaux du système solaire allaient tenter de les secourir. S'ils n'y parvenaient pas, les passagers et l'équipage de Galaxy auraient la consolation de mourir sous les projecteurs aveuglants des médias.